Donc, bonjour à tout le monde. Content d'être parmi vous et je remercie le pasteur David pour cette opportunité qu'il me donne d'apporter le message de la parole de Dieu. C'est une façon pour moi de rendre ce que j'ai reçu au sein de cette communauté. J'ai beaucoup reçu et je redonne en retour ce que j'ai reçu. Le livre de la Genèse se termine par l'histoire de Joseph. Bien évidemment, le livre de la Genèse se termine par l'histoire de Joseph. Les chapitres 37 à 50 sont d'une richesse étonnante qui tiennent le lecteur en haleine jusqu'à l'heureux dénouement, mêlant à la fois émotion et consolation. On pourrait structurer ces 13 derniers chapitres du livre de la Genèse de la façon suivante. La crise familiale au chapitre 37, les péripéties de Joseph en Égypte, suivi de sa réhabilitation, les chapitres 39 à 41. Enfin, les retrouvailles et le salut de la famille patriarcale, les chapitres 42 à 50. Bien entendu, nous n'allons pas lire ces 13 chapitres, mais je ferai un résumé de ces 13 chapitres. Tout d'abord, le chapitre 37, où il est question de la crise familiale. Joseph est le fils de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. Jacob reporte sur Joseph toute son attention, toute son affection. Il manifeste sa préférence pour ce fils en lui confectionnant une tunique princière. Il cherche visiblement par ce moyen à transférer les droits du fils aîné sur Joseph aux grandes dames des autres fils. Très vite, Joseph se trouve écartelé entre l'amour de son père et de la haine qui s'empare de ses frères. Haine qui s'amplifie lorsque Joseph leur rapporte non seulement ses rêves, mais aussi leur mauvaise conduite à leur père. Dès lors, le fossé se creuse entre Joseph et ses frères. La haine s'empare du cœur et des frères de Joseph. J'aimerais faire une parenthèse, une mise en garde des parents. Je ne suis pas concerné par cela parce que j'ai une seule enfant, une fille. Le texte nous dit que Jacob préférait Joseph par rapport aux autres frères et le manifestait ouvertement. Vous savez, en tant que parent, les parents aiment tous ses enfants, leurs enfants. Les parents aiment tous les enfants, mais les aiment différemment. Vos parents vous aiment, mais vous aiment différemment. Pour diverses raisons, peut-être ça fait peut-être une dizaine d'années qu'un parent a un enfant, ils ont un enfant, et bien pour toute cette affection par rapport au second, ça peut se comprendre. Ou peut-être un enfant qui est un peu malade, toujours malade, le parent a une sensibilité, une faiblesse pour cet enfant-là. Ou peut-être, parmi les frères et sœurs, c'est celui qui réussit moins bien. Les parents ont une faiblesse. Mais il faut comprendre cela. Mais ça ne veut pas dire que vos parents ne vous aiment pas. Mais ils vous aiment différemment. Mais le problème, il est dit que Jacob manifestait ouvertement cette préférence. Et ce n'était pas une bonne chose. Parce que cela peut entraîner de la jalousie, de l'amertume et de la haine pour ceux et celles qui sont préférés. Et je me rappelle, ma mère nous disait souvent, j'aime tous mes enfants de la même façon. Mais on voyait très bien que papa ou maman manifestaient plus d'attention pour l'une ou pour l'autre. Mais ils tenaient le même discours. Mais on voyait, en tant qu'enfant, vous voyez très bien. Je ne critique pas, loin de là, ma mère. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour mes parents. Donc, ce qui veut dire que nos parents nous aiment, mais différemment. Et il faut l'accepter. Et donc, ce que faisait Jacob n'était pas une bonne chose. Même si la Bible relate cette histoire, ça ne veut pas dire parce que la Bible relate cette histoire que c'est ce qu'il faut faire. Non, Jacob préférait Joseph. Cependant, Jacob, conscient de la crise familiale qu'il a lui-même provoquée, prend l'initiative d'envoyer Joseph vers ses frères. Joseph accepte cette initiative de son père. Il est décidé à tenter quelque chose pour transformer les relations que Jacob et lui-même ont emprisonnées. Mais la démarche pacifique de Joseph n'aboutit pas au résultat escompté. Lorsque les frères de Joseph l'aperçoivent au loin, ils projettent de le tuer en espérant par ce moyen se débarrasser définitivement de ce maître rêveur. Néanmoins, deux frères de Joseph s'y opposent. Tout d'abord, l'aîné Ruben, qui propose de le jeter dans une citerne. Il cherche implicitement à le ramener à son père, envers lequel il avait une dette. On se rappelle qu'il avait perdu l'estime de son père, Jacob, en couchant avec l'une des femmes de Jacob. Après avoir jeté Joseph dans la citerne, suivant le conseil de Ruben, le narrateur précise que les frères de Joseph s'assirent pour manger. C'est le signe d'une alliance meurtrière qu'il conclut. Judas, l'un des frères, avance une idée lorsqu'il voit une caravane passer à proximité du camp. Il propose de vendre Joseph aux Ismaélites qui, à leur tour, le vendront aux Madianites. Ainsi, pour 20 sicles d'argent, Joseph est vendu par ses frères, soit le prix d'un esclave à l'époque. Voilà la situation. Donc, au chapitre 39, nous retrouvons Joseph. Il est vendu une deuxième fois, une troisième fois, à un Égyptien nommé Potiphar, un haut fonctionnaire de l'État. Joseph avait 17 ans lorsqu'il est arrivé en Égypte. 17 ans. Joseph se montre parfaitement loyal envers son maître Potiphar. La Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, comme si c'était pour le Seigneur, vous le faites, et non pour les hommes. Joseph a du succès dans tout ce qu'il entreprend. Il gagne la confiance de son maître et il est en bénédiction pour la maison de Potiphar. Seulement, comme un malheur n'arrive jamais seul, Joseph doit une nouvelle fois faire face à une injustice. Joseph est beau et son visage est agréable. La femme de Potiphar tente de le séduire. Elle lui fait des avances pratiquement tous les jours, précise le texte biblique. On parlerait aujourd'hui d'harcèlement sexuel. Mais Joseph ne veut pas trahir la confiance de son maître et surtout pécher contre Dieu. Il dit, comment pécherai-je contre Dieu en commettant un si grand malheur, un si grand crime? Il refuse de céder aux propositions malsaines de la femme de son maître. Et un jour, Joseph se retrouve seul avec cette femme dans la maison de Potiphar. Et la femme lui dit, couche avec moi. Mais Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Et qu'est-ce que fait la femme? Il le saisit par ses vêtements et lui dit, couche avec moi. Et Joseph s'enfuit, mais en partant, comme elle a tenu Joseph par ses vêtements, il y a une partie des vêtements de Joseph qui reste dans ses mains. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme se sent humiliée de voir que Joseph n'a pas cédé à ses avances, à ses propositions. Il appelle les serviteurs de son maître, il dit, voici, l'esclave hébreu que mon maître a emmené dans la maison a voulu se jouer de moi, et comme j'ai crié, j'ai élevé la voix, il s'est enfui, et j'ai eu le temps de le tenir par ses vêtements. Voici le signe. Et cette femme attend le retour de son mari à la maison. Et elle va tenir le même discours à son mari. L'esclave hébreu que tu as emmené dans notre maison a voulu se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il s'est enfui, mais j'ai eu le temps de le saisir par ses vêtements. Et Potiphar est furieux. Et bien sûr, il croit sa femme. Eh bien, il va jeter Joseph en prison. Ainsi, après 11 ans de bons et loyaux services, chez Potiphar, Joseph est jeté en prison pour avoir refusé de commettre une faute. Dès lors, le crime commis par ses frères cesse d'être le drame unique de son existence. Dans la galerie des personnes odieuses, la femme de Potiphar vient rejoindre les frères de Joseph pour leur tenir compagnie. Toutefois, Joseph comprendra plus tard que cette seconde injustice, encore plus grave que la première, le hissera au sommet de la pyramide sociale en Égypte. En attendant, Joseph est jeté en prison. Pourtant, dans sa détention, il gagne la confiance du commandant de la prison qui le nomme surveillant. Joseph est en prison, mais il gagne la confiance du surveillant et du commandant qui place Joseph surveillant des prisonniers. C'est aussi dans sa cellule qu'il fait la connaissance de deux hauts fonctionnaires du pharaon, un échanson et un panetier. Ces deux hommes avaient été disgraciés par le pharaon. Il interprète le rêve de ces deux personnages en priant à l'échanson de se souvenir de lui une fois qu'il retournerait en grâce chez le pharaon. Joseph avait interprété le rêve de ces deux hommes et avait dit à l'échanson, tu retourneras en grâce auprès du pharaon, et à l'autre, au panetier, il a dit, tu seras décapité. Et ça s'est produit comme Joseph avait dit. Seulement une fois libéré, une fois la liberté retrouvée, le grand échanson, l'échanson va oublier Joseph. Aussi, malgré l'espoir de pouvoir sortir de son cachot, Joseph va rester 2 années supplémentaires en prison à cause de l'ingratitude de l'échanson. Il faudra attendre que le pharaon lui-même fait un rêve que personne ne saura lui donner une explication satisfaisant pour que le grand échanson se souvienne enfin de Joseph. Et le grand échanson va dire au roi, oui, quand j'étais en prison, il y avait un homme qui savait interpréter les rêves. Voilà le rêve qu'on avait fait, il nous avait donné l'explication et cela s'est accompli comme il l'avait dit. À ce moment-là, nous sommes déjà au chapitre 41. On vient vite sortir Joseph de prison. On lui rase la barbe et on lui coupe les cheveux, on change ses vêtements et on le conduit auprès du pharaon. En écoutant Joseph, le pharaon s'aperçoit que l'interprète de ses songes n'est nullement un rêveur et le nomme surintendant des greniers royaux et ministre d'État. Où ? Quelle ascension sociale ? Il nomme Joseph, suite à l'explication du rêve du pharaon, eh bien, il nomme Joseph comme premier ministre en Égypte. Un esclave vendu, hein? Il est arrivé comme esclave, hein? Maintenant, il est premier ministre, ministre d'État. Le pharaon lui donne un vêtement de lin, lui met un anneau au doigt, signe de plein pouvoir et d'autorité. Nous sommes maintenant au chapitre 42. La famine qui sévit partout en Mésopotamie, cela conduit les frères de Joseph en Égypte pour y acheter des vivres. Joseph reconnaît ses frères et il se souvient des rêves qu'il avait faits. Rappelez-vous, au chapitre 37, versets 5 à 7, Joseph avait fait un rêve. Il avait des gerbes qui poussaient ensemble et soudainement, sa gerbe est devenue supérieure aux autres gerbes et les autres gerbes se sont un peu prosternées. Et le père de Joseph, lui et de Joseph, raconte ce rêve à son père et les frères étaient là. Et le père lui dit, tu veux dire par là que tes frères, ta mère et moi, nous allons nous prosterner un jour devant toi? Et les frères ont commencé à avoir encore plus de haine pour Joseph à cause de ce rêve. Mais c'était un rêve que Dieu avait donné à Joseph, qui s'est réalisé là. Des années après, ce rêve se réalise. Voilà. Les frères de Joseph, comme il y a la famine en Mésopotamie, eh bien, ils viennent en Égypte pour acheter des vivres. Et qui dirige? Eh bien, c'est Joseph. Ils viennent se prosterner devant ses frères. Joseph reconnaît ses frères. Mais dans l'esprit de ses frères, il pensait que Joseph était déjà mort. Il ne pense pas à Joseph. Comment ils les ont vendus à des Madianites? Comment il peut être premier ministre en Égypte? Mais Joseph les reconnaît. Le lecteur peut être surpris par la réaction de Joseph envers ses frères. Il leur parle avec dureté. On serait tenté de croire que Joseph se venge en jouant au chat et à la souris avec ses frères. Pourtant, on ne peut s'empêcher de demander pourquoi il ne révèle pas directement son identité à ses frères. Pourquoi il ne dit pas tout de suite à ses frères, « C'est moi Joseph, c'est votre frère que vous avez vendu. » Qu'on se rassure, Joseph n'a pas un cœur de pierre. Chapitre 42, verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il s'éloigna de ses frères pour pleurer quand il a vu ses frères. Chapitre 43, verset 30. Joseph coupa court car il brûlait de tendresse pour son père et il avait besoin de pleurer. Il entra dans sa chambre et il pleura. Chapitre 45, verset 2. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Donc Joseph n'avait pas un cœur de pierre. Joseph fait preuve d'une sagesse spirituelle tout à fait remarquable. Il sait que la famille élue ne peut survivre à un crime sans une repentance authentique, c'est-à-dire un changement intérieur qui se traduit dans les actes. Dès lors, il les met à l'épreuve pour pénétrer leurs véritables intentions. Il fait revenir Benjamin, l'autre fils de Javet et de Rachel, et nouveau préféré de Jacob. Évidemment, il avait des préférés, il avait des préférences. Hein. Joseph cherche ainsi à susciter la jalousie de ses frères. En fin de compte, c'est la même scène qui se rejoue. Là, c'est Benjamin, c'est le dernier, avec Joseph, pour voir comment allaient se comporter ses frères vis-à-vis de Benjamin. Joseph le fait s'asseoir devant, lui manifeste beaucoup de tendresse, beaucoup de considération. C'était juste pour tester. Au total, le résultat de la mise à l'épreuve est concluant. Prêt à confesser un crime tenu longtemps caché, chapitre 42, verset 56, les frères de Joseph ont vaincu la tentation de la jalousie. Judas, qui avait suggéré de vendre Joseph, se porte garant de la liberté de son frère. Il dit, garde-moi en otage, mon père sera triste si Benjamin ne retourne pas. C'est lui qui avait suggéré de vendre Joseph, maintenant, il se porte garant. Vous voyez l'état de cœur qui change, l'état d'esprit qui change? Prêt à sacrifier sa vie. Devant ce témoignage aussi touchant, Joseph ne peut plus se contenir. C'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu. Chapitre 45, verset 3. Joseph comprend l'utilité de ses souffrances personnelles et peut maintenant découvrir la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. Le Seigneur a voulu sauver la famille patriarcale pour réaliser son plan de salut pour l'humanité. Voilà les raisons qui expliquent tout ce que Joseph a subi. Dieu avait un plan pour la famille dont nous sommes issus, dont nous bénéficions. Nous pouvons dégager plusieurs leçons pratiques à travers ce récit, mais je retiendrai trois. Tout d'abord, la foi et la fidélité de Joseph. Une foi qui lui a permis de tenir devant cette épreuve redoutable. Un jeune homme qui n'avait que 17 ans quand il a été vendu par ses frères. Une foi qui lui a permis d'accomplir avec loyauté tout ce qu'on lui demandait, excepté de se compromettre avec l'épouse de Potiphar. Dans la prison, il fait comprendre à l'échanson et au parnetier que c'est seul Dieu qui peut expliquer leur rêve. C'est ce qu'il va leur dire, hein. C'est Dieu seul qui... C'est pas moi, Joseph, c'est seulement Dieu qui est capable d'expliquer le... Bien sûr, Dieu donnait l'explication à Joseph. Devant le pharaon, il confesse le nom de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. Chapitre 40, verset 16, verset 25, verset 28, verset 32. Chose étrange, le pharaon vient à confesser le nom de Dieu et lui dit, « C'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. » À ses frères, il dit ceci, « C'est Dieu qui m'a envoyé ici en avant pour vous sauver la vie. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a tiré du bien. » À son père, il dit, « C'est Dieu qui a fait de moi le premier ministre le plus important du roi d'Égypte. » La foi de Joseph. Malgré toutes ces galères, hein, vous comprenez bien, vous êtes haïs par vos frères, vous êtes vendus. Une femme vous accuse injustement et vous voyez malgré tout cela la main de Dieu. Vous voyez la foi de Joseph. Les souffrances de Joseph ont été réelles et grandes. Le nom qu'il donne à ses enfants emporte le témoignage. Son fils premier-né, il l'appelle Manassé. Et Manassé veut dire, Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. C'est significatif, hein, pour lui. Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. Donc, Joseph a beaucoup souffert de cette situation, d'avoir souffert de la haine de son et de ses frères, d'avoir été vendu par ses frères et d'être séparé de ses proches pendant des années. Il a souffert de cela et il a donné à son premier fils, Manassé. Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. Son deuxième fils, il le nomme Éphraïm, qui veut dire « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. Il était malheureux dans ce pays, même s'il a connu l'ascension sociale, même s'il était premier ministre. Mais il avait cette souffrance dans son cœur. Il était triste, il était malheureux à cause de cette situation. Et c'est pour ça qu'il donne ce nom à son fils, le deuxième. Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. Joseph demeure pour nous un homme de foi, de fidélité et de consécration à Dieu. Il nous montre qu'on peut servir le Seigneur même lorsque nous sommes en proie à l'injustice, au mépris, au rejet des autres. Il nous montre qu'on peut continuer à servir Dieu même si nous sommes en proie à l'injustice, au mépris, à l'incompréhension. Vendu par ses frères, haï par ses frères, accusé injustement par la femme de Potiphar. Malgré ça, cet homme continue à servir Dieu. La deuxième leçon que je voudrais dégager de ce récit, c'est la bonté et la fidélité de Dieu envers Joseph. Rappelez-vous, au début, au chapitre 37, les frères de Joseph avaient le projet de le tuer. C'est Dieu qui met l'idée aux frères de le mettre dans la citerne. C'est Dieu qui a permis cela, qu'on ne le tue pas, pour préserver sa vie. C'est Dieu qui a permis qu'une caravane de Madianites passe pour vendre Joseph. C'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a permis que les Madianites vendent Joseph à Potiphar, un haut fonctionnaire de l'État. Pour préserver la vie de Joseph, on voit, et il y a une expression qui revient, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Vous lisez sous ces chapitres-là, vous verrez sans cesse ce verset qui revient comme un refrain. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Malgré les galères, hein, l'Éternel était là. Dans la maison de l'Égyptien, tout réussissait. La bénédiction était sur la maison de l'Égyptien. Et le texte biblique dit, l'Éternel était avec Joseph et faisait la maison, tout. Réussissait à la maison de Potiphar et faisait prospérer la maison de Potiphar. En prison, c'est Dieu qui lui permet de faire la connaissance de l'échanson et du panetier. C'est Dieu qui lui permet de trouver toutes ces personnes. Tant de souffrances, malgré tout, tant de souffrances, il est dit que l'Éternel était avec Joseph. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Dieu, tu m'as oublié. Hein? Dieu, est-ce que tu existes? Mais Joseph reste accroché à sa foi. Parce qu'il a une foi authentique dans le Dieu vivant. En qui tu as placé ta foi? En qui tu as placé ta confiance ce matin? Le récit de la vie de Joseph nous donne la certitude que Dieu intervient toujours en faveur de ceux qui lui sont fidèles. Le récit de la vie de Joseph nous donne la certitude que Dieu intervient toujours en faveur de ceux qui lui sont fidèles. Qu'il est avec nous dans nos souffrances. J'ignore quelles sont vos souffrances, mais Dieu les connaît. Qu'il est avec nous dans nos incompréhensions. J'ignore quelles sont vos incompréhensions. Qu'il est avec nous dans nos combats. J'ignore quels sont les combats que vous menez, mais Dieu n'ignore pas. Dieu les connaît. Enfin, la dernière leçon pratique. Joseph, un homme de pardon. Joseph, un homme de pardon. Le pardon que Joseph accorde à ses frères est saisissant. Joseph fait preuve ici d'une réelle maturité spirituelle. Il faut vraiment avoir une maturité spirituelle pour pardonner de la sorte. Il faut être honnête, nous avons parfois du mal à pardonner à ceux qui nous ont causé du tort, qui nous ont offensés, qui nous ont fait souffrir injustement. Nous avons beaucoup de mal. Le pardon, me semble-t-il, est étroitement lié à une repentance, une demande de repentance, une démarche de repentance. J'ajouterai même de contrition de l'offenseur. J'ai rencontré beaucoup de situations et je me suis rendu compte que les gens ne se repentent pas. Ils regrettent leurs gestes, mais ils ne regrettent pas leurs péchés. Ils regrettent peut-être, ils ont été désagréables, mais ils ne regrettent pas d'être, par exemple, je prends l'exemple d'être désagréable, mais ils regrettent parce que la personne ne leur parle plus. C'est ce qu'ils regrettent. La relation est brisée, mais ils ne regrettent pas le péché, le fait d'avoir péché. Et c'est ça le problème. Et les frères de Joseph ont regretté ce qu'ils avaient fait. Pas les conséquences, puisqu'ils étaient devant Joseph et ils ont eu une bénédiction. Mais ils ont sincèrement regretté ce qu'ils avaient fait. Quand vous lisez ces chapitres-là, vous verrez qu'ils regrettent sincèrement d'avoir réagi de la sorte. C'est ça la repentance. Joseph, les frères de Joseph ont effectué cette démarche de repentance, même s'ils ont du mal à croire que le pardon de Joseph est entier, puisqu'ils envoient ce message à Joseph après la mort de leur père. Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui. C'est-à-dire, pardonne-leur leur faute à nous qui servons le même Dieu que ton père. Il pleure. Il leur demande de ne pas avoir peur de lui. Il les embrasse. Par ces paroles pleines d'affection, précise le narrateur, Joseph encourage ses frères. Enfin, notons que Joseph donne à chacun de ses frères un habit de fête. Comment ne pas y voir au travers de ce geste, un signe puissant de réconciliation, de tendresse, d'amour, bref, de pardon. L'amour, écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, nous dit que l'amour couvre tout, que l'amour pardonne tout, que l'amour supporte tout. Le lecteur est donc invité à comprendre qu'aucune situation n'est désespérée, qu'aucune blessure du passé n'est irrémédiable, n'est irréparable, à condition que l'homme de Dieu, que l'homme reconnaisse l'action de Dieu dans sa vie et qu'intervienne le pardon qui réconcilie. Qu'aucune souffrance du passé qu'aucune blessure du passé, qu'aucune situation du passé n'est irréversible, n'est irrémédiable, à condition que l'homme reconnaisse l'action de Dieu dans sa vie et qu'intervienne le pardon qui réconcilie. Que Dieu, dans sa bonté, nous aide à compter sur lui et à croire qu'il prend soin de tous ceux et celles qui lui demeure attaché. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, merci pour ce récit de la vie de Joseph. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à ce récit. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre, comme tu nous dis dans ta parole, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et à travers ce récit de la vie de Joseph, nous ne pouvons pas rester insensibles. Tu nous interpelles, chacun à son niveau. Tu sais où nous en sommes avec toi, mais tu veux, Seigneur, que nous puissions rester attachés à toi, rester fidèles à ta parole, te servir tant que tu nous accorderas le souffle ici-bas, le souffle de vie ici-bas. Nous te remercions, Seigneur, parce que à travers nos incompréhensions, à travers nos points d'interrogation, nos doutes, nous sommes assurés que tu es avec nous. Nous sommes assurés que tu veilles sur nous. Nous sommes assurés que tu prends soin de nous. Nous voulons, Seigneur, en retour, te servir de manière désintéressée, d'un cœur sincère, Seigneur, et accomplir ta volonté pendant notre pèlerinage ici-bas. Aide-nous, Seigneur, nous crions à toi pour que nous puissions faire ta volonté et jouir de cette vie que tu nous donnes en attendant, Seigneur, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera pour l'éternité. Où il n'y aura ni de pleurs, ni de larmes, ni de jalousie, ni de coups bas, ni de mensonges, mais ce sera la félicité éternelle dans ta présence. Nous te remercions, c'est ça notre espérance en tant que chrétien, Seigneur. C'est toi notre espérance et tu as mis ces paroles dans nos cœurs, cette espérance dans notre cœur, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.